Vous êtes bien sûr RFI, il est 2h à Paris, 1h de moins en temps universel. Toutes les confessions seront respectées en Syrie, assure le nouveau Premier ministre nommé après la chute de Bachar el-Assad. Il a aussi appelé les Syriens exilés à rentrer, reconstruire le pays. La Syrie, toujours pilonnée par Israël, qui veut détruire ses capacités militaires, c'est contraire au droit international et ça agace aux Nations Unies. On va à Genève dès le début de ce journal. Au Niger, les djihadistes sèment la terreur. Ce mercredi, ils se sont attaqués à des villageois dans la préfecture de Téra. Et puis en France, plus que 24 heures pour Emmanuel Macron, qui doit nommer un Premier ministre. Depuis la chute de Bachar el-Assad, Israël a mené des centaines de bombardements sur des sites militaires en Syrie. Dernier en date, il y a quelques heures, des avions israéliens ont frappé des installations à Latakié ainsi que le port de la ville. Des entrepôts également visés dans la province voisine de Tartous, indique l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Israël justifie ses frappes pour neutraliser une quelconque menace, éviter que ses capacités militaires soient utilisées contre l'État hébreu. Mais le problème, selon des experts de l'ONU, c'est que c'est totalement contre au droit international. Ces experts sont d'ailleurs inquiets de l'impunité dont jouit Israël dans la région, notamment à Gaza. Et ils ont lâché quelques coups à l'encontre des autorités israéliennes. Depuis Genève, Jérémy Lanche.
Faire fonctionner son frigo, faire tourner une machine ou simplement recharger son téléphone est devenu un combat de tous les jours pour Abou Mahan, un des habitants de la localité de Nawa. Avec moins d'une demi-heure d'électricité par jour depuis près de 14 ans, ce père de famille a dû s'adapter.
Seuls ceux qui ont de l'argent dans le sud peuvent acheter de l'énergie solaire et obtenir de l'électricité. Ceux qui n'ont pas d'argent, ils n'ont pas d'électricité. Ils ne peuvent pas recharger les batteries, allumer la télévision ou éclairer leur maison. Les centrales de production sont inactives à cause des bombardements et du vol de câbles.
Le problème ne s'arrête pas à l'électricité. Plus de 2 millions de Syriens du Sud souffrent depuis de nombreuses années d'une pénurie d'eau, ce qui les oblige à acheter cette denrée à des revendeurs qui les puisent grâce à des panneaux solaires et un moteur électrique eux-mêmes dépendant du soleil. Problème, l'eau est souvent impropre à la consommation, comme l'explique Samira Khader, femme au foyer.
Nous achetons de l'eau dans des puits privés pour assurer nos besoins en matière de tâches ménagères et de nettoyage et nous ne gardons que quelques litres pour boire ou pour préparer le thé. Et souvent, nous restons des semaines sans eau, ce qui accumule la saleté, les vêtements sales, soit parce qu'elle n'est pas disponible ou bien parce que nous n'avons pas l'argent pour acheter de l'eau.
La guerre menée par l'ex-régime de Bachar el-Assad à partir de 2013 contre l'armée libre syrienne qui tient la région est la cause principale de l'absence d'eau et d'électricité de la plus grande ville du sud syrien. Mohamed Erami, Dera, RFI.
Veuillez nous excuser pour ce petit problème technique. On rejoint donc Jérémy Lanche à Genève.
Comme le secrétaire général des Nations Unies, Francesca Albanese, est officiellement interdite de séjour en Israël. La rapporteure spéciale sur les territoires occupés est l'une des bêtes noires de Tel Aviv. Pour elle, l'Assemblée générale de l'ONU doit tout simplement suspendre Israël des Nations Unies.
Un État membre qui frappe des écoles des Nations Unies, qui tue 270 et plus personnels. Mais on doit tirer une ligne parce que sinon, le manque de respect envers les Nations Unies deviendra la norme.
Autre grief, celui-ci porté par la rapporteure spéciale sur l'indépendance des juges, Margaret Sazer-Waite. Elle trouve inquiétant que des États refusent d'appliquer les mandats d'arrêt délivrés par la Cour internationale de justice à l'encontre de Benjamin Netanyahou et de son ex-ministre de la Défense, Yoav Gallant. Surtout que les juges et les procureurs de la Cour font depuis l'objet de menaces pas toujours voilées.
Les menaces contre la Cour internationale de justice contribuent à instaurer une culture de l'impunité. Il est temps de mettre fin aux deux poids, deux mesures. La justice internationale existe ou bien elle n'existe pas.
Pour un autre expert, ce qui se joue, c'est tout simplement la crédibilité de tout le système de droit international. Pourquoi voudriez-vous que des États sanctionnent la Russie quand les Occidentaux leur demandent, dit-il en substance, si ces États ont le sentiment qu'Israël n'est pas traité de la même manière? Jérémy Lanche, Genève, RFI.
L'incursion terrestre israélienne en Syrie également, contraire au droit international, rappelle l'ONU. Les troupes de Tel Aviv occupent désormais des territoires au-delà du Golan et de sa zone tampon. Une occupation temporaire, rassure Benjamin Netanyahou, qui plaide pour une zone sans armes au sud de la Syrie, zone frontalière avec Israël. La France a réagi à cette occupation. Paris appelle Israël à se retirer de la zone. C'est dans ce contexte régional de très forte tension que l'Assemblée générale de l'ONU réclame un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel à Gaza. Une résolution symbolique, soutenue par une très large majorité de pays, mais rejetée par Israël et les États-Unis. Un texte similaire avait été bloqué par le veto américain au Conseil de sécurité fin novembre. La Maison-Blanche qui envoie son chef de la diplomatie au Moyen-Orient. Anthony Blinken s'est envolé pour la Jordanie avant de rejoindre Ankara vendredi. Au programme des discussions, la Syrie, mais aussi Gaza. Derniers efforts en vue d'une trêve avant le changement d'administration en janvier. Il existe à présent une chance de parvenir à un accord, a indiqué le ministre israélien de la Défense à son homologue américain. Dans la bande de Gaza, au moins 22 personnes sont mortes ce mercredi dans une frappe dans le nord, rapporte la Défense civile.
Hier après-midi.
Au Niger, à Téra, les hommes armés qui écument par centaines tout l'ouest de la préfecture se déchaînent. Ce mercredi, en début d'après-midi, ils s'en sont pris aux villageois de Libéry. Après avoir chassé les habitants, ils ont mis le feu au village. Dans la zone des trois frontières, les djihadistes imposent leurs lois, plus précisément dans les préfectures de Téra et Gotei. Les précisions de Sabine Mellet.
Hier après-midi, lors d'une descente dans un village situé non loin du site aurifère de Samira, les djihadistes ont chassé la population avant de mettre le feu au village de Libéry. Le gigantesque brasier était visible de loin. Selon les premiers témoignages, vidéo à l'appui, les hommes armés circulaient à bord de dizaines de motos. Après leur forfait, ils ont pris la direction de la frontière du Burkina Faso où les combats entre l'armée régulière et les djihadistes de l'EIGS se sont intensifiés. À Chatouman, dans cette même zone, selon des sources locales et sécuritaires, une centaine de soldats a été tués mardi. On dénombre également des blessés qui ont été évacués vers le district sanitaire de Téra. Plusieurs ambulances ont été observées toute la journée d'hier par des habitants de la région. Dans un communiqué diffusé sur la télévision nationale, l'état-major général des forces armées nigériennes a démenti toute attaque djihadiste dans la zone. Toutefois, le communiqué précise que 10 soldats ont été enterrés ce mercredi au carré des martyrs de Niamey.
Sabine Mellet, après plusieurs heures de négociations, le président somalien Hassan Cheikh Mohamud et le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed ont trouvé un accord ce mercredi sous les auspices du président turc Recep Tayyip Erdogan. Accord pour mettre fin aux tensions, notamment sur l'accès à la mer de l'Éthiopie. En Haïti, les avions civils américains interdits de survoler Port-au-Prince pour 3 mois supplémentaires. Prolongation décrétée ce mercredi par le régulateur américain de l'aviation après une interdiction totale décidée il y a un mois à la suite de tirs sur 3 avions qui survolaient le ciel de la capitale haïtienne. Vous êtes bien sur RFI, il est 2h08 à Paris, le palais de l'Élysée où Emmanuel Macron réunissait mardi les chefs de parti et le président français l'affirmait. Il annoncera le nom du futur Premier ministre dans les 48 heures, Victorien Villaume. Si on suit sa logique, il lui reste donc moins de 24 heures pour faire son annonce.
C'est ce jeudi, en fin de journée, plutôt quand Emmanuel Macron sera de retour de Pologne, que la nomination est attendue, indique sobrement une source au sein de l'exécutif. Il va donc falloir s'armer d'encore un peu de patience. En attendant, le camp présidentiel continue en tout cas de faire circuler les mêmes noms avec le centriste François Bayrou qui tient toujours la corde. Le président du Modem, considéré comme un fidèle d'Emmanuel Macron, a été reçu plusieurs fois ces derniers jours au palais de l'Élysée. Mais il faut rester prudent, ça ne serait pas la première fois que François Bayrou voit Matignon glisser au dernier moment entre ses doigts. Autre possibilité, Sébastien Lecornu, actuel ministre démissionnaire des armées, Catherine Vautrin, ministre démissionnaire de l'aménagement du territoire, également cité l'ancien premier ministre Bernard Cazeneuve ou encore l'ancien ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. À ne pas exclure non plus une personnalité surprise qui sortirait soudainement du chapeau.
Le feuilleton judiciaire se poursuit entre Kylian Mbappé et le PSG. La LFP, Ligue de football professionnelle, se déclare incompétente pour trancher sur les 55 millions d'euros de salaire impayé réclamés par l'international français à son ancien club. La LFP indique que le tribunal judiciaire de Paris ayant été saisi par le PSG, eh bien c'est désormais à la justice de statuer. Et sur les terrains, les résultats de la Ligue des Champions suite et fin de la 6e journée ce mercredi. Soirée mitigée pour les clubs français. Monaco défait 3-0 à Arsenal, passe barragiste. Mais plutôt, Lille poursuit son épopée. Victoire 3-2 contre les Autrichiens de Sturm Graz. Enfin, Manchester City battu 2-0 à Turin. Tandis que Barcelone repart de Dortmund avec les 3 points.